rencontre avec nos évêques.
Chers auditeurs, bonjour et bienvenue, Thibaut Dautuy, le micro de Radio Présence, pour notre émission hebdomadaire de rencontre avec l'un des évêques de notre région. Bonjour, Mgr Gardès.
Bonjour.
Vous êtes évêque d'Auch dans le Gers, et avec vous pendant ce mois de septembre, nous évoquons l'Église et les saints. Après avoir la semaine dernière essayé de comprendre ce qu'est un saint, et en quoi nous sommes chacun de nous appelés à la sainteté, voyons aujourd'hui comment est-ce qu'on fabrique, entre guillemets, plein de guillemets, comment est-ce qu'on fabrique un saint? Qu'est-ce que ça veut dire de fabriquer un saint? D'abord, on peut dire que au début de l'Église, les premiers saints étaient presque tous des martyrs. C'est cela qui a créé, on va dire, un peu l'idée du saint, c'est ce martyr. Aujourd'hui, c'est plus vraiment une obligation.
Ça rejoint l'histoire de l'Église. On aime à dire que effectivement, l'Église est née dans le sang des martyrs. Et ça rejoint ce que je disais à notre dernière émission sur le Dieu qui vient déranger. Et les saints viennent nous déranger, ils viennent nous interpeller par rapport à notre vie, notre comportement, notre attitude vis-à-vis de nos frères, et en particulier les plus petits et les plus pauvres. Donc on se retrouve là, dès le début de l'histoire de l'Église, avec des gens qui venaient déranger. Et que même saint Paul, avant qu'il devienne saint Paul, il persécutait les communautés chrétiennes naissantes et pensant bien faire, pensant tout à fait être fidèle aux 613 mitzvot de la Torah, les commandements. Donc. Et puis, il pensait vraiment servir Dieu. Et puis, voici qu'il est renversé par la lumière du ressuscité sur le chemin de Damas. On a trois versions qui existent dans les Actes des Apôtres. D'ailleurs, il n'y a aucune version où il y a le cheval. Hein. Ça, c'est apocryphe. À titre humoristique. Mais saint Paul me paraît être une figure magnifique de la sainteté, parce que c'est précisément quelqu'un qui a pris d'un seul coup conscience de l'existence de Dieu, et qu'en Jésus-Christ, il a découvert ce à quoi il aspirait depuis longtemps. À partir de ce moment-là, il y a un retournement total, il fait teshuva, il revient à la source, il revient carrément au Dieu, puis il découvre le Rédempteur. Et à ce moment-là, son attitude se trouve complètement transformée et lui-même deviendra l'un des piliers, bien sûr, de cette Église naissante.
Et donc un saint, aujourd'hui encore, c'est quelqu'un qui nous retourne, c'est quelqu'un qui nous bouleverse. Comment est-ce que l'Église détermine ce qu'est un saint et surtout, comment est-ce que les nouveaux saints sont-ils proclamés? Qu'est-ce que c'est qu'un procès, alors? Parce que c'est le mot qu'on utilise.
Le procès, il y a processus. Donc le processus qui est engagé demande toujours à ce que ça vienne d'abord du peuple. Ça, c'est toujours à partir de choses qui sont dites, que l'on entend. On voit par exemple pour ce qui s'est passé pour le père Jacques Hamel avec... immédiatement où il y avait l'archevêque de Rouen qui a rencontré le Saint-Père, le pape François, pour voir si on pouvait engager. Mais concrètement, c'est pas ni l'évêque ni quelqu'un de la famille qui décide, que des gens parlent déjà en disant concrètement, la vie que telle personne a menée, c'était un saint, c'était une sainte, tel curé, c'était telle mère de famille, ça, c'était tel homme, telle femme, tel jeune homme ou telle jeune fille, là, pour Claire de Castelbajac. Donc c'est dans le comportement qui a été vécu, dans l'attitude qui a été vécue, ce sont des vies qui ne sont pas des vies banales, et où de fait, le point de départ, il n'y a pas de procès qui soit engagé sans qu'il y ait eu déjà des choses qui aient été dites, voire des demandes venant de la population.
Ouais, c'est très important. C'est pas une décision.
C'est très 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 important. Alors après, il y a un deuxième stade, bien sûr. C'est qu'est-ce que l'évêque va faire de tout ça, parce que c'est sous la responsabilité de l'évêque. Et puis, comme vous l'avez déjà aussi évoqué, dans la procédure qui est engagée, il y en a qui prennent parti pour, parti contre. Là, je vais dire avec, donc, des mots tout simples.
C'est le fameux avocat du diable.
Et puis il y a le postulateur. Pour Claire de Castelbajac, c'est la mère abbesse de Boulogne, la mère Emmanuelle, qui a fait un travail gigantesque, absolument magnifique, que j'admire énormément.
On en reparlera dans une prochaine émission, il faut lire nos auditeurs.
Oui, tout à fait. Oui. Mais pour dire qu'il y avait déjà, à la mort de Claire de Castelbajac, donc il y avait déjà des gens qui disaient, tiens, c'est une vie qui a été menée, et voilà. Donc le point de départ, c'est très très important de savoir que c'est pas une décision de l'évêque à partir de son bureau, et qui dit, tiens, telle personne, elle m'intéresse ou pas, du coup je vais en fabriquer une sainte. D'ailleurs, c'est très intéressant au niveau biblique. Quand on regarde dans le livre de la Genèse, les premiers versets du livre de la Genèse, Bereshit bara Elohim, au commencement, à la tête de créa Dieu, créa le ciel et la terre. Le verbe bara en hébreu, c'est-à-dire le verbe créer, là, ce verbe-là a uniquement dans tout ce qu'on appelle nous l'Ancien Testament comme sujet à Dieu. Lorsqu'on parle de l'homme qui fait quelque chose, on prend un autre verbe, le verbe assa, on dit qu'il fait quelque chose, et on parle tout à l'heure de fabriquer, comment on fabrique des saints. Mm-hmm. Donc ça, c'est l'attitude humaine de l'Église qui est incarnée, mais il faut savoir qu'à la source, il y a un seul créateur, et il y a un seul sujet à ce niveau-là. Alors après, c'est à l'Église d'engager l'enquête, qu'on appelle, il y a une enquête diocésaine qui est menée. Et puis, il y a la postulatrice qui fait un travail, puis qui essaye de recenser absolument tous les éléments dont on dispose, et ça va constituer tout un dossier. Souvent, ça fait des milliers de pages. Et ensuite, eh bien, la question est posée à Rome pour savoir ce qu'il en est. Après, on arrive au dernier stade, qui est le dossier qui est, quand il est terminé, les derniers documents à fournir, qui fait entre 300 et 500 pages, il y en a qui sont un peu plus importants, mais qu'on appelle la positio. C'est-à-dire, c'est le texte final qui doit permettre de mettre en évidence les différentes vertus. C'est-à-dire, pour être proclamé vénérable, avant d'être béatifié et canonisé, il y a d'abord la proclamation.
Il y a donc trois étapes.
Voilà, mmh. Donc les trois étapes importantes. Mmh. Bon, il y a d'autres petites étapes, mais il y a ces trois étapes importantes. Donc, c'est la reconnaissance des vertus. C'est-à-dire que c'est pas simplement un engouement de l'Église ou de notre humanité. Par exemple, il pourrait y avoir telle et telle chanteuse là que j'aime énormément, mais il n'y a pas forcément une vie qui a été très évangélique. Alors du coup, même si cette personne nous plaît bien, on veut quand même vérifier que dans la vie, il y a eu une attitude, un comportement qui soit tout à fait conforme à ce que le Seigneur attend de nous, et ce bel éclairage, ce bon GPS qui nous est donné avec l'Évangile.
Et là, dans ce cas-là, l'Église rejoint le peuple de Dieu, c'est-à-dire qu'ensemble, ils reconnaissent effectivement les vertus d'une personne.
Mais alors après, c'est transmis à Rome, c'est Rome qui décide.
C'est Rome qui décide.
C'est la congrégation donc, de la cause des saints qui s'en occupe. Et qui a ce souci. Ils ont énormément de dossiers, bien entendu, qui leur arrivent. Moi, ce qui me paraît le plus important là-dedans, c'est de voir comment, à une période donnée de l'histoire de notre humanité, de l'histoire locale, de l'histoire d'un pays, telle ou telle personne se retrouve plutôt avec cette procédure de canonisation, parce que ça correspond à un besoin humain et spirituel. On aura l'occasion d'en reparler, mais ça me paraît important de signaler dès maintenant, c'est que notre humanité a besoin d'être réveillée par des témoins de la foi.
Guide, elle a besoin de témoins.
Et qui vivent jusqu'au bout, et vous avez pris l'exemple magnifique, puisque ça c'est le sommet au niveau de la sainteté, c'est le martyr, ça c'est là. Donc là, puisque ça vient d'un verbe grec, marturein, qui veut dire témoigner. C'est-à-dire qui témoignent, y compris jusqu'au sacrifice de leur vie, comme ça a été le cas de Jésus qui a offert sa vie pour l'humanité.
J'aurais des questions peut-être un peu plus concrètes. Dans notre calendrier, il y a des saints, il y a aussi des bienheureux.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots la différence entre un saint et un bienheureux?
Alors c'est souvent, c'est une marque de différents. Il y a différentes étapes que j'évoquais. J'évoquais les principales. Mais il y a tout un travail qui doit se faire, bien sûr, avec les commissions qui sont là au Vatican, qui sont à Rome. Concrètement, avant d'arriver à la canonisation, il y a toujours dans les étapes, au moins pour la béatification et la canonisation, la question d'un miracle qui est posée. Or, un miracle, là, en grec, et puis c'est le mot séméion, c'est le signe. En hôte, en hébreu, c'est d'ailleurs très intéressant, puisque le mot est composé de la première lettre de l'alphabet et la dernière lettre de l'alphabet. Ça veut dire que les signes que Dieu pose dans notre humanité, c'est depuis les origines jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est toute la symbolique des lettres dans la tradition rabbinique qui nous éclaire merveilleusement. Mais le point important à souligner, c'est qu'au miracle, un saint ne fait pas un miracle.
C'est le fait de prier le saint qui
provoque le miracle. C'est le Seigneur qui fait les miracles.
Oui, bien sûr.
Mais par contre, on passe par la médiation de saints.
On revient à cette médiation.
Le nombre de fois aussi où je m'adresse à tel ou tel saint, à tel ou tel, à la Vierge Marie, par excellence, bien sûr, je me tourne vers elle. Ben voilà, il y a telle famille qui vient de me confier, il y a le grand-père qui est atteint d'un cancer, qui souffre terriblement. Alors à ce moment-là, je me tourne pour qu'elle tourne vers le Seigneur. Et puis qu'ils disent, si vous pouvez l'aider, déjà qu'au niveau de l'entourage familial, au niveau des soins médicaux, que ça passe par toutes ces médiations, et puis que le miracle qui est donné, ce qu'on appelle souvent d'ailleurs miracle, c'est un signe qui nous est donné, parce que ça c'est le sens biblique, mais c'est quelque chose qui sur le plan actuel, on n'arrive pas à expliquer sur le plan médical. Il y a des critères qui sont très très précis, donc... En particulier, c'est l'immédiateté et le côté irréversible, c'est-à-dire que la personne est guérie définitivement. Mais j'ai pas mal travaillé ces questions-là. J'étais un physicien avant de rentrer au séminaire.
Et puis vous n'êtes pas très loin de Lourdes.
J'ai travaillé avec les directeurs là, des cabinets, mais surtout un certain nombre de médecins, y compris des grands patrons d'hôpitaux, un que j'ai encore vu cet été, et qui m'en parlait, et qui a écrit des articles dans des revues américaines à ce niveau-là. Donc là, n'oublions pas que ces miracles qui nous sont donnés, c'est pour nous tourner vers le Seigneur et que les saints sont là comme médiation et nous aider à avancer sur le chemin tous de la sainteté.
Toute petite question très technique, vous allez trouver horrible ce que ma question, mais vous parliez tout à l'heure du fait que les saints émergent dans une région, dans un pays, etc. Mais pour porter un saint, pour porter une personne qu'elle devienne saint, il faut un budget.
Ah ben le côté financier n'est pas négligeable. Là, vous avez tout à fait raison. Et que, comme disent certaines personnes, ça coûte cher pour faire un saint.
C'est un signe, c'est ça, oui.
Mais en même temps, ça mobilise tellement de personnes, si on regarde sur le plan professionnel. Et puis, il faut bien aussi que les gens qui sont à Rome, les gens qui sont à l'officialité, les gens qui vérifient la qualité du travail qui a été fait, parce que dans les dossiers qui sont constitués, il y a des normes très précises, il y a des contraintes qui sont posées. Donc l'heure de travail, ça coûte. Donc
c'est un travail considérable. C'est
normal.
C'est un travail considérable.
Et puis en même temps, si ça aide le Vatican à mieux vivre, moi je suis tout à fait favorable.
Merci, Monseigneur Gardès. Merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour comprendre le lien entre les papes et les canonisations.
Rencontre avec nos évêques.